Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Il est un peu plus de 11h sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la rentrée de Wagon Livre. Nous vous proposons aujourd'hui d'évoquer un des hommes politiques majeurs de l'histoire de la Troisième République et des débuts de Vichy avec notre invité Étienne Paquin. Bonjour.
Bonjour Monsieur Petit.
Merci à vous de nous rejoindre. Alors nous allons parler de Pierre-Étienne Flandin. Vous avez travaillé sur lui, une figure politique à la fois on peut dire de Lyon, mais aussi grande figure nationale. Je dis que c'est un homme qui vous a occupé pendant plus de 10 ans, un véritable travail de bénédictin qui a débouché sur une thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2016 sous la direction d'Olivier Dard et qui est disponible en librairie, publiée par les publications historiques de l'Est, dépendant du Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, Université de Lorraine. Alors je vous présente, avant que de parler de Pierre-Étienne Flandin, vous êtes né dans le pays à Valonnais. Puis-je donner la date de votre naissance ?
22 septembre 1945, Clinique Biodet.
À Avallon, hein. Vous êtes agrégé d'histoire, vous avez enseigné en classe préparatoire au lycée Poincaré à Nancy, d'abord dans celle préparante à l'école militaire de Saint-Cyr, puis en lettres et première supérieure. Vous vous intéressez désormais maintenant au père de Pierre-Étienne Flandin et vous coulez une retraite heureuse mais active puisque vous donnez toujours des conférences, vous êtes sollicité. C'est donc un homme érudit et passionné d'histoire forcément qui nous accompagne aujourd'hui. Je présente un peu Pierre-Étienne Flandin. Bien évidemment, je précise à nos auditrices et auditeurs que l'émission d'aujourd'hui n'est qu'une première partie. Nous nous retrouverons samedi prochain pour essayer d'étaler et de comprendre le parcours politique d'une figure aujourd'hui oubliée, victime de ce que vous appelez une damnatio memoriae, boudée par les historiens. En tout cas, grâce à vous, il a trouvé son biographe. Alors, Pierre-Étienne Flandin. Pierre-Étienne Flandin a été député durant 6 législatures, une figure d'un parti politique qui s'appelle l'Alliance républicaine démocratique. Il a marqué la vie politique de Lyon, il a été maire de Domcy et conseiller général de Vézelay, mais il a aussi été, et c'est en cela que c'est une figure nationale, titulaire de ministère. Il fut en 1934 président du Conseil. Alors il a été un grand opposant du Front populaire en 1936. Pierre-Étienne Flandin votera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qu'il servira durant quelques semaines, de mi-décembre 1940 à février 1941, succédant ainsi à Pierre Laval. Pierre-Étienne Flandin sera condamné en 1946 à 5 ans de dégradation nationale, puis immédiatement relevé de cette condamnation pour fait de résistance. Il est mort en 1958. Il est enterré d'ailleurs dans le petit cimetière de la commune de Domcy, dans l'Yonne. Il est mort à l'âge de 69 ans, après avoir tenté en vain un retour sur la scène politique nationale au moment de la 4e République. En entrée en matière, Étienne Paquin, qu'est-ce qui vous a conduit à cette figure politique qu'est Pierre-Étienne Flandin et pourquoi lui avoir consacré 10 ans de recherche à fouiller dans les cartons de la BNF et à solliciter aussi l'aide et le soutien des héritiers, des descendants de Pierre-Étienne Flandin?
Écoutez, c'est la question, vous avez pratiquement répondu déjà à cette question. Je voulais faire une thèse d'État, parce qu'un historien doit faire une thèse, c'est un moment exaltant dans une vie d'historien. Donc je cherchais un sujet sur Lyon, un sujet sur l'histoire politique et surtout l'histoire politique de l'entre-deux-guerres que, que je connais très bien, enfin que je connais en tout cas assez bien. Et j'ai rencontré un jour Olivier Dard qui venait faire une conférence à Nancy, que j'avais invité devant mes étudiants. Et en sortant, nous avons évidemment pas mal bavardé. Je lui ai dit que je cherchais une thèse voilà, sur Lyon, etc. Puis j'ai parlé de Pierre-Étienne Fondin, et alors ça c'est le hasard, n'est-ce pas? Il avait un thésard qui était obligé d'abandonner cette thèse, parce que le thésard ne pouvait pas à la fois gérer son enseignement et l'écriture d'une thèse. La thèse était libre, il m'a proposé le sujet, j'ai travaillé avec lui. Olivier Dard a été un patron qui m'a vraiment beaucoup appris, je le salue au passage, et voilà pourquoi je vais travailler sur Flandin. Alors pourquoi 10 ans de travail? Parce que tout simplement, alors ça vous n'avez pas dit, mais vous avez fait une présentation remarquable, mais il y a un lot absolument considérable d'archives, notamment à la BNF, il y a 140 cartons, ce qui est énorme, absolument énorme, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des voyages et à aller visiter la BNF pour ouvrir tous ces cartons. Je suis d'ailleurs parvenu, je ne suis pas parvenu à les ouvrir tous, il y en a un ou deux que j'ai effleurés, et puis il y en a deux ou trois qui sont interdits d'accès, mais enfin c'est ce qui explique la longueur du travail.
Alors faisons connaissance avec Pierre-Étienne Flandin, qui est né le 12 avril 1889 à Paris. Son père était déjà un tribun de la politique au Palais Bourbon, puisqu'il était sénateur de l'Inde et aussi, il faut le dire, grand Manitou du lobby colonial. Alors Pierre-Étienne Flandin naît dans une famille fortunée, il faut le dire. C'est tout de même un grand bourgeois. Alors, qui deviendra grand bourgeois de province, plutôt. Un homme brillant qui fait de solides études. Alors, il est diplômé en sciences politiques, docteur en droit. Et jeune homme, finalement, d'abord, on le connaît comme brillant avocat d'affaires.
Oui. Il est lié au milieu d'affaires très vite. Hein, il est avocat d'un certain nombre d'entreprises. Simplement, pour ouvrir une parenthèse sur cette question, c'est évidemment quelque chose qui aura un intérêt pour lui en tant que plus tard chargé de responsabilité ministérielle, c'est qu'il a des contacts avec les milieux économiques, et pas n'importe lesquels, hein, les avionneurs, les constructeurs automobiles, Renault en particulier, avec qui il a eu des relations assez cordiales, avant de se fâcher d'ailleurs. Mais ça a un inconvénient, c'est que cette porosité entre les milieux d'affaires et la politique peut conduire à des scandales, et c'est en particulier le scandale de l'Europostale, qui manifeste en quelque sorte le danger pour un homme politique d'avoir trop de contacts, en particulier d'être avocat d'une compagnie ou d'une société industrielle comme celle de la Compagnie Générale d'Aviation.
Alors, il aura assez souvent l'occasion de se justifier. C'est quelqu'un qui sait se défendre, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui manie la langue et le verbe avec combativité et fougue.
Oui. Et alors là, c'est accessible à tous vos auditeurs, hein, par Gallica. On peut aller lire les discours de l'Assemblée nationale. Il y a eu des moments très très forts, hein, d'échanges, en particulier avec les orateurs socialistes, pour en citer deux que vos auditeurs qui sont des gens cultivés connaissent sûrement, mais bien entendu Léon Blum, hein, qui était lui aussi un remarquable orateur, à mon sens le meilleur orateur de l'Assemblée, mais Renaud Dell, qui est assez connu également pour son trajet politique. Donc les échanges sont effectivement assez intéressant, et surtout on peut admirer tout de même la qualité d'orateur de ces gens-là. On avait des orateurs, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais on avait de très grands orateurs sous la Troisième République.
Alors vous encouragez nos auditeurs à aller lire certaines des interventions de Pierre-Étienne Flandin à l'Assemblée nationale. Si on regarde aussi les photographies, car on en trouve via Internet, qui reste quand même un merveilleux outil si on l'utilise intelligemment. Finalement, Flandin, c'est un corps, c'est un homme massif, imposant.
Tout à fait. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on beaucoup de gens retiennent de lui. Hein. On l'appelait le grand, hein, bien entendu, pour des raisons physiques essentiellement. Hein. Donc, il est très grand. C'est un bel homme, comme on dit. Hein. C'est un bel homme, très grand, bien charpenté et tout. C'est un sportif, hein, dont nous avions discuté un petit peu l'autre jour. C'est un sportif, c'est le meilleur fusil de l'Assemblée nationale. Il est passionné de chasse, il va à la chasse en Angleterre. Il joue au tennis avec Jean Borotra. Je ne sais pas s'il gagne souvent un set, mais enfin, en tout cas, il a joué au tennis avec Borotra, qu'il connaît bien. Il est également pêcheur, il pêche dans la Cure. Il a tout ça des vrais comportements. Il fait très attention au corps. Hein. C'est un personnage qui a une vie extrêmement réglée. On le sait en particulier quand il est à Matignon. Il a laissé la description de ses journées. C'est un homme qui sait organiser sa vie de façon à ménager le corps. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a eu un accident de voiture assez grave, mais autrement, il n'a jamais été atteint par d'autres pathologies ou d'autres ennuis de santé.
Alors, un corps, certes, mais un corps qu'il sait mettre en valeur, parce qu'en plus, c'est un homme élégant qui s'habille à Londres, ce qui n'est pas anodin. Il y a un côté anglo-saxon du personnage, mais qu'on présente parfois, notamment au début de votre thèse, vous dites qu'il a un caractère hautain, une arrogance naturelle, voire une absence de chaleur.
Oui. Je pense que c'est un trait de son personnage. La plupart des contemporains l'ont souligné et il a une certaine distance. Il n'a pas de mépris, je crois. Il est capable de discuter avec n'importe qui, enfin n'importe qui. Je veux dire, par là, avec l'ensemble de ses électeurs. Il a, rue de Paris, il a une antenne dans laquelle il se rend tous les samedis et il reçoit tous les gens. Et Dieu sait s'il a rencontré beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il a un côté un peu hautain, un peu réservé. Ça, c'est sûr, c'est sûr.
Et vous le soulignez avec force, c'est qu'il est vraiment... Alors, il va devenir député, on va parler un peu de la guerre de 1914, la première, parce qu'il a... C'est un jeune homme qui a finalement 25 ans, en 1914. Alors, on le retrouve combattant, mais dans une armée complètement nouvelle, à savoir l'aviation, puisqu'il est dans une escadrille, dans l'escadrille MF-33 sur l'Isère et l'Artois, où il sert quelques mois... pour, en fait, une aviation qui n'est pas une aviation de combat, mais une aviation de repérage, d'observation, de position des lignes ennemies.
Oui.
Et là, c'est le début d'une grande histoire d'amour, j'allais dire.
C'est le début d'une grande histoire d'amour avec l'aviation qui durera au moins pendant toutes les années 20. Il sert l'aviation donc militaire. Il est retiré du front, il est appelé par Painlevé et chargé de mission pour l'aviation. Donc, cette mission dure pendant tout le temps de la guerre. Ça lui permet de prendre contact déjà avec les milieux industriels, de prendre aussi des contacts avec l'armée. Il comprend comment fonctionne et la difficulté de fonctionnement de la fonction de gouverner quand on a affaire à l'armée en face de soi, aux industriels, aux intérêts économiques et puis à la fois au Parlement. Il fait beaucoup. C'est une riche expérience pour lui. Alors, cette expérience avec l'aviation, elle se poursuit après avec un sous-secrétariat d'État où il remplit une mission importante dans le développement d'une aviation civile. Il crée la météorologie nationale, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, il est le porteur vraiment de... Il apporte un message au pays, à savoir que l'aviation est vraiment quelque chose dont il faut se préoccuper. C'est un élément qui va bouleverser la vie de la planète entière. Il faut que la France reste en lice. Il faut qu'elle se donne un ministère véritable qui s'occupe de ça, alors que les Américains et les Anglais l'ont déjà, on ne l'a pas. Donc, il milite pour l'aviation et puis il est patron de l'aéroclub. Pendant toutes les années 20, il est très présent dans le secteur de l'aviation.
Et on peut comprendre effectivement les puissantes relations qu'il établit avec les constructeurs d'avions. Mais l'aéropostale est vraiment un élément fort de sa vie. C'est assez passionnant. En plus, cet homme est jeune et il est visionnaire. Justement, lui, il est partisan d'une France ouverte. Oui. Alors, il faut aussi qu'on rappelle qu'en 1914, la France a un empire et que pour Flandin, l'empire de notre pays à l'époque, c'est très important. C'est une force absolument non négligeable.
Tout à fait. Il a beaucoup voyagé. Flandin est un député voyageur. Il a beaucoup voyagé au Moyen-Orient. Il a visité nos protectorats, Syrie en particulier. Il a voyagé en Algérie. Il avait beaucoup d'amis politiques en Algérie. L'Algérie est une vote à droite, majoritairement. Et il y a beaucoup de gens qui sont membres de l'Alliance démocratique. Donc il a visité l'Algérie. Il a un domaine en Algérie. La famille Flandin a un domaine en Algérie. Donc il fréquente l'Empire. Mais pour être plus précis, c'est surtout dans la fin des années 30 qu'il valorise l'Empire. Il valorise l'Empire comme étant un élément qui peut unir ou réunir les Français autour d'un grand projet. Le clivage est très fort à partir de l'arrivée au pouvoir du Front populaire. C'est évident, il y a une France de droite, une France de gauche. Il fait partie de la France de droite, il critique la France de gauche, mais il dit qu'on peut réunir les Français. Et un des thèmes sur lesquels on peut les réunir, c'est notre Empire.
Alors, on va marquer une première pause musicale et puis nous parlerons justement de la couleur politique, ce parti, l'Alliance démocratique, qui aujourd'hui est... On doit le considérer comme un parti du centre.
Ah oui, c'est vraiment le centre du centre. C'est le centre droit. Voilà. Donc c'est Modem, c'est etc., UDI, enfin c'est tous ces partis centristes que nous avons vus, que Giscard a tenté de lancer, etc. Ces partis ont du mal à vivre très longtemps. C'est le cas de l'Alliance démocratique. Elle est née en 1901. Elle disparaît après la Seconde Guerre mondiale très vite. Les premiers congrès après la guerre sont purement formels. Elle disparaît du paysage politique.
Marquons un premier intermède musical. Nous sommes ensemble, je le rappelle, jusqu'à midi pour évoquer le parcours de Pierre-Étienne Flandin, un des hommes politiques majeurs de l'histoire de la Troisième République et des débuts de Vichy, avec notre invité Étienne Paquin, agrégé d'histoire, auteur d'une thèse de doctorat éditée sous le titre « Pierre-Étienne Flandin ou un centrisme impossible ». Et ce travail remarquable est disponible en librairie aux publications historiques de l'Est. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Votre émission littéraire.
Qui est donc Pierre-Étienne Flandin ? Une des grandes personnalités politiques de l'entre-deux-guerres, c'est ce que aujourd'hui nous vous proposons grâce à notre invité agrégé d'histoire, Étienne Paquin, qui lui a consacré une thèse de doctorat soutenue en 2016, fruit d'une dizaine d'années de recherche et de travail de bénédictin, un travail qui est disponible en librairie parce que notre émission a une visée, allez, on va dire didactique, et on espère éveiller les curiosités. Et pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, bien évidemment, nous les renvoyons à la publication de la thèse de notre invité, que je remercie encore d'être aujourd'hui devant notre micro, donc pour parler de Pierre-Étienne Flandin. Alors avant la pause musicale, nous parlions du parti politique qu'a animé Flandin et qu'il a dirigé un temps, l'Alliance démocratique. Vous avez rappelé, Étienne Paquin, que la France est très clivée. Il y a aussi quand même des forces socialistes, il y a des communistes, il y a des radicaux, il y a des radicaux socialistes. La vie politique est plus compliquée. Et Flandin, lui, en tout cas dans les années 1920, s'installe dans une politique qu'il ancre clairement au centre.
C'est un héritage familial. L'Alliance démocratique est un parti centriste, c'est-à-dire hostile à tous les extrémismes, socialisme, communisme à gauche, et fascisme, et monarchisme, bonapartisme à droite. Donc au centre, c'est le rejet des extrêmes. Alors ce parti, si on peut en dire rapidement quelque chose, est un parti qui recrute surtout dans la bourgeoisie, hein, dans les classes moyennes en tout cas, c'est plutôt ça. C'est un parti modéré, libéral, mais avec un libéralisme modéré, laïque, mais avec un laïcisme ou une laïcité modérée, tolérante, etc. C'est un parti de centre-droite tout à fait caractéristique, hein, qui refuse à tout sectarisme. Alors ce parti a évidemment des inconvénients. C'est un parti qui est un parti d'une certaine bourgeoisie assez âgé, et qui est un peu dans une attitude d'entre-soi, si vous voulez. C'est Happy Few qui se rencontrent. L'Alliance démocratique, c'est un lieu de sociabilité aussi bien qu'un lieu, un lieu d'action politique. Et le problème de ce parti, il y en a deux. Le problème, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à pénétrer vraiment les masses, à la différence des conservateurs anglais où il y a un électorat populaire. L'Alliance démocratique n'a pas d'électorat vraiment populaire. Hein. Donc elle recrute surtout dans les classes moyennes. Et le deuxième problème de l'Alliance démocratique, c'est l'indiscipline. Chaque militant et chaque parlementaire de l'Alliance a le programme du parti dans la poche, mais en même temps, il a sa propre conception de certains problèmes. Ce qui conduit à l'Assemblée, beaucoup de membres de ce parti, d'être très indisciplinés. Et je terminerai en disant simplement que Flandin, en 1935, est victime d'un vote de défiance. Il est obligé de quitter le pouvoir. Beaucoup de députés de l'Union démocratique ont voté contre lui. En particulier, il y a un clivage très fort à l'intérieur du parti, au début des années 30, sur la question monétaire. Il y a beaucoup de partisans de la dévaluation. Flandin y est absolument hostile, totalement hostile. Il y a là un clivage tellement important que ça lui vaudra d'être, en quelque sorte, éjecté du pouvoir en 1935.
Alors, vous nous avez présenté cette Alliance démocratique comme étant un parti finalement assez ouvert. Il y a une originalité, ce qui m'a beaucoup séduit et surpris, c'est que très tôt, Flandin est favorable au vote des femmes. Et il faudra attendre pourtant encore quelques années.
Tout à fait. Alors, vous avez raison, c'est un des points essentiels de ce qu'on pourrait appeler ces idées politiques. Il y en a d'autres. Il y a la réforme de l'État, la réforme de l'administration. Il y a aussi, il est très partisan du suffrage à la proportionnelle, qu'il juge le plus démocratique et le plus loyal, puisque ce qu'il déteste en particulier dans l'autre type de suffrage, c'est le second tour, qui est le moment où on récupère des voix un peu n'importe comment, etc., ce qui pollue un peu la portée du programme qu'on veut soutenir. Mais vous avez raison, le point le plus intéressant, c'est le vote féminin. Il a à trois reprises défendu devant l'Assemblée nationale le vote féminin. Il n'est pas, enfin, l'Assemblée était d'accord, mais c'est le Sénat qui a refusé. Alors, des méchantes langues disent que Flandin savait très bien et qu'il pouvait se livrer d'autant plus facilement à cette proposition qu'il savait que de toute façon le Sénat la refuserait. C'est un peu méchant, je pense que ce n'est pas vrai.
Il rentre en politique très jeune, en fait, dès l'âge de 25 ans, en 1914, et comme je l'ai dit à l'introduction à notre échange, 6 législatures, toujours réélu, plutôt confortablement.
Très confortable, de plus en plus confortablement.
Et pourquoi donc ?
Alors, beaucoup d'ancrage, c'est-à-dire la maîtrise de multiples réseaux. Un réseau avec les sous-préfets, déjà, il a eu 5 sous-préfets. Il a eu d'excellentes relations avec tous les sous-préfets. Chacun y trouve un avantage. En étant proche des sous-préfets, il maîtrise la région, en quelque sorte. Et puis, pour les sous-préfets, connaître un personnage politique dont l'ascension est évidemment intéressante, c'est aussi pour eux un avantage. Il a des relations avec les maires. On va en citer quelques-uns. Rostin à Carré, Devoir à Saint-Germain, Chivert à Avalon. Les relations avec Chivert ont été assez longtemps difficiles. Chivert se place à gauche, Flandin plutôt à droite. Et puis, à partir du moment où Chivert est maire, l'accord se fait et du coup, leur politique se croise, en tout cas se rassemble en quelque sorte. La fusion entre les deux personnages se fait. Et en 38, Chivert a la Légion d'honneur par Flandin. Donc, voilà, il a tous ses ancrages. Et puis, au-delà, il a une présence sur le terrain, auprès des électeurs, auprès des gens. Inauguration de monuments aux morts avec discours sur les relations internationales, remise des prix dans les écoles avec discours sur la jeunesse, etc. Et puis les comices agricoles, il ne rate pas un comice agricole pour parler d'agriculture, de l'économie en général. Il est très très présent. Il reçoit des lettres, ce qu'on appelle le système des recommandations, auxquelles son secrétaire particulier tente de répondre, qui demande quelques menus services. C'est déjà vrai pendant la guerre, c'est vrai après-guerre. C'est un système qui fonctionne dans tous les partis politiques et pour tous les hommes politiques, bien entendu.
Alors, je lis un je extrait de votre thèse, c'est dans le chapitre intitulé « Une implantation locale ». Donc le jeune député, Pierre-Étienne Flandin, crée en 1923 le Challenge Flandin qui associe son nom au développement du football dans le département. Il préside aussi des congrès de sapeurs-pompiers comme à Vézelay en mai 1929 où on festoie entre exposition de matériel nouveau et simulation de lutte contre l'incendie. Fin juin 1930, Avalon accueille la fête fédérale de l'Union des fédérations de Lyon de préparation militaire, de sport et gymnastique. Le maire Chivert et le sous-préfet Dupart y accueillent Eugène Lantier, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, et Flandin à cette date ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est vraiment un homme qui communique, et notamment aussi, alors on a dit combien il était moderne, précurseur aussi, défenseur du vote des femmes, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les médias. La presse écrite, bien évidemment, mais aussi un média un peu nouveau, que j'aime particulièrement, la radio.
Alors, la presse écrite, c'est vrai, c'est prioritaire, bien entendu. Il a un journal, hein, la Revue de Lyon, qui est édité à Vallon, est un journal que Flandin contrôle. Hein, c'est lui qui dirige l'affaire, il nomme le rédacteur en chef, etc. D'une façon générale, on le voit très présent dans la presse, surtout dans les années 30. Il y a énormément d'articles de Flandin dans la grande presse nationale, Paris Soir, etc. etc. Le temps, beaucoup moins, mais en tout cas, la grande presse parisienne le suit. Et puis, vous avez raison de le noter, à partir du milieu des années 30, la radio devient très, très présente. Hein. Donc, il y a un discours assez important qu'il prononce au moment de la crise Rhénanie en 1936, hein, de la réoccupation de la Rhénanie par l'Allemagne. C'est un discours, le discours de Vézelay, où il essaye de faire le point sur l'état de nos relations entre la relation de la France avec l'Allemagne nazie en matière diplomatique. Il le prononce à Vézelay, le discours, hein, et il a un retentissement national.
Alors, il est une question que j'ai omise. Comment se fait-il que cet homme né à Paris se retrouve député de l'arrondissement d'Avallon? Comment se fait-il que l'on retrouve Flandin dans Lyon?
Alors là, il est clair qu'il a un héritage, hein, un héritage politique. La région d'Avallon, de Vézelay, le canton de Vézelay, est la terre de ses trois ascendants, Gaspard Étienne, Charles Étienne, ont été, comme vous l'avez très bien noté au début, conseillers généraux et maires. Donc il a déjà en place, en quelque sorte, tout un dispositif. Pour lui, il suffit simplement de dépasser ce qu'ont fait ses aînés. Étienne avait été, comme vous l'avez souligné, député et sénateur. Lui, il va encore plus loin. Mais pourquoi aller chercher à Paris ce qu'on a à Avallon? C'est-à-dire une circonscription qui vous est pratiquement acquise d'emblée. Hein, et l'élection la plus difficile pour lui, c'est celle de 1914. Après, ça y est, hein, il a pris et comme vous l'avez souligné, il ne cesse de progresser. Donc, aucune utilité d'aller s'enfermer à Paris.
Mais il y a un paradoxe. Cet homme brillant de la haute bourgeoisie, éduqué vraisemblablement à Paris, qui s'intéresse et qui devient maire dans Lyon d'une toute petite commune qui s'appelle Domcy. D'ailleurs, il est enterré au cimetière de Domcy depuis sa mort en 58.
Oui, mais mieux vaut être premier à Domcy que second à Paris. Vous savez que son cursus est intéressant. Il commence par être député, il est ensuite conseiller général et ensuite maire. C'est un cursus inverse. En général, on est d'abord maire, puis ensuite conseiller général, puis ensuite député. Ça montre simplement son l'enracinement familial. Voilà. Donc, tout ça n'est... Mais non, il est à l'aise dans cette circonscription. Il connaît tout le monde, hein, et tout le monde le connaît. Mais il est très présent en même temps. Il vient le plus souvent possible. Je vous le disais tout à l'heure, franchement, je crois qu'il ne rate en 20 ans que 2 ou 3 commissaires agricoles. Quoi. Il est toujours présent. Et il vient avec plaisir. Hein. Il aime son village. Hein. Il y a de très jolies pages dans ce n'est pas édité, mais ses mémoires de prison, où il regagne sa maison. Il décrit la route entre Sermi et son village de Cure, Aquin, etc. C'est assez joliment écrit. Hein. En tout cas, ça montre un vrai attachement à la petite patrie.
Et son mandat local fait de lui quelqu'un qui a apporté beaucoup d'améliorations dans le quotidien des gens.
Bien sûr. Alors, le plus important, c'est évidemment le CIERA, qui existe toujours, hein, et qui a été un des premiers syndicats d'électrification en France, hein, et à un moment un des plus puissants, en tout cas. Ça, c'est Flandin. Hein. C'est Flandin, avec d'autres, bien entendu. Hein. Il a lancé cette idée en 23-24, et le CIERA s'est mis en place et subsiste toujours. Et il a confié, hein, c'est peut-être une formule assez facile, mais il a confié que c'était la réalisation dont il était le plus fier. Voilà, ce CIERA qui a permis l'électrification de la Vallonnais.
Et notamment, vous expliquez l'électrification de la basilique de Vézelay, qui a réjoui le maire de l'époque, grand flandiniste, grand flandinien. Oui, oui. Donc le maire de Vézelay s'appelait Sestac.
Sestac, oui. À noter d'ailleurs, Romain Rolland aussi, dans les relations avec Sestac, avec Flandin, etc. Mais bon, je renvoie à son journal, le journal de Romain Rolland.
Alors c'est une figure nationale avec un ancrage local, des réseaux, une popularité, une estime importante dans son département. Est-ce qu'il est dévoré d'ambition politique? Impossible pour lui d'arrêter. Il n'y a qu'au moment, je crois c'est dans les années sous la quatrième, quand il retente... quand il tente, pardon, un retour sur la scène nationale en politique et qu'il échoue, puisque donc il échouera, je crois, au Sénat et ne sera réélu que conseiller général de Vézelay. Sa femme souffle un peu et dit « Enfin, on va pouvoir commencer à vivre
oui, ».
Ça veut dire que le couple Flandin, lui, était très pris par la politique.
Bien sûr, oui. Madame Florentin avait une forte personnalité, puisqu'on en parle, hein, et elle l'avait démontré en particulier, mais on y reviendra peut-être dans l'installation à Matignon, où elle intervient beaucoup dans les travaux, mais elle avait une forte personnalité, elle l'a appuyée évidemment tout le temps. Ils ont eu des moments difficiles, notamment pendant la guerre, hein, où il était en prison en Algérie, puis ensuite à Fresnes, etc. Donc, bon, voilà, ça a été assez périlleux pour elle, et je crois qu'effectivement, elle avait une certaine lassitude de cette emprise de la politique sur son mari. Je crois que ce qu'elle dit n'est pas faux, hein. Je crois qu'elle en avait vraiment par-dessus la tête.
On va marquer une nouvelle petite pause musicale. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes. Je rappelle que c'est Étienne Paquin qui nous accompagne. Il est agrégé d'histoire. Il est avec nous devant notre micro pour évoquer sa thèse, soutenue en 2016, intitulée « Pierre-Étienne Flandin ou un centrisme impossible », une thèse donc publiée, disponible en librairie aux publications historiques de l'Est. Nous revenons dans quelques minutes pour continuer à dérouler le parcours politique de l'homme qui nous intéresse aujourd'hui dans Wagon Livre, votre émission littéraire.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pierre-Étienne Flandin ou un centrisme impossible, c'est le titre de la thèse soutenue en 2016 par notre invité, Étienne Paquin, une thèse soutenue sous la direction d'Olivier Dard et consacrée à Pierre-Étienne Flandin, sur lequel, bien évidemment, nous revenons pour essayer de mieux comprendre ses positions politiques. Nous l'avons dit, il est totalement intégré, voire à un moment le responsable politique d'un parti créé en 1901 et qui s'appelle l'Alliance démocratique. Flandin est tout de même en admiration devant le capitalisme américain et économiquement, on peut dire que c'est un libéral sans exagérer ou faut-il nuancer ?
Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un libéral. Ça, c'est certain. Donc, il partage tout le credo libéral, hein, liberté d'entreprendre, droit de propriété, ouais, propriété de ses biens, le libre-échange, le moins d'État possible. Ça, c'est une idée très forte chez Flandin en matière économique. Je noterai simplement une chose, c'est que c'est un grand admirateur dans les années 20. Il observe la deuxième révolution industrielle. C'est un grand admirateur du modèle américain avec en particulier l'organisation scientifique du travail, le travail à la chaîne, etc., qui permet une production standard avec des prix très bas et par conséquent une consommation facilitée. Et c'est pour lui un moteur à la croissance économique qui est un moteur absolument vertigineux dont il voudrait bien que les Français comprennent l'importance. Alors, ça ne serait pas en France tout ça, hein, mais voilà. Il ajoute dans ses considérations sur ce néo-capitalisme que c'est un néo-capitalisme qui ne peut pas connaître de crise. On arrive à détecter très vite ce qui ne colle pas, surproduction, sous-consommation, et on intervient. Patatras, crise de 29. Alors là, il vire complètement de bord, c'est quand même intéressant, et il critique le modèle américain, la légèreté des Américains, la spéculation boursière, etc. Et il suit à ce moment-là d'autres économistes qui proposent tout de même quelques... Il rencontre Keynes en Grande-Bretagne, l'entretien semble ne pas avoir été très, très porteur, ils sont dans des avis complètement différents, mais Flandin est obligé de constater que le libéralisme doit avoir des limites et que l'intervention de l'État peut quelquefois être utile. Alors, bon, ça, c'est le point essentiel.
En tout cas, il est très, très anglo-saxon. Je tiens à le dire tout de même, c'est qu'il connaissait bien Winston Churchill.
Ah, il connaît très bien Winston Churchill.
Et Churchill viendra dans Lyon, à Domcy, oui. En 1936.
Oui, Churchill fait un petit passage dans Lyon. Il est reçu chez les Flandins directement. Ils font des visites. Je crois qu'il rencontre, il visite Wesley, bien entendu. Il rencontre les sociétés savantes locales. Enfin, Churchill avait pour Flandin une grande estime, mais on y reviendra sans doute. Mais Churchill s'est beaucoup démené pour le tirer du guépier dans lequel il s'était mis au moment de
l'emprisonnement et ensuite
de l'emprisonnement
du procès en 1946.
Et du procès.
Oui. Et en matière politique. Parce qu'il faut aussi rappeler que la France sort de la Première Guerre mondiale, qu'il y a eu la création de la SDN, que reste très présente dans l'esprit de nos concitoyens la question de l'Allemagne, du diktat, de l'Allemagne qui doit payer, l'Allemagne paiera. Et Flandin est très vigilant. Je dirais, à l'égard de l'Allemagne, pour lui, l'Allemagne doit payer.
À l'Allemagne, c'est un des traits. Jusqu'en 1900, dans les années 30, ça bascule. Mais jusqu'en tout cas, pendant toutes les années 20, il est par rapport à l'Allemagne, qui est quand même le sujet capital en matière diplomatique pour la France, hein, il est par rapport à l'Allemagne extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que le traité de Versailles a évoqué des réparations. Les sommes ont été fixées postérieurement, mais l'Allemagne doit payer. Quel que soit le protocole de paiement, l'Allemagne doit payer. Or, l'Allemagne traîne les pieds. Il y a l'inflation absolument catastrophique de 1923. L'Allemagne se rétablit. Beaucoup de gens, notamment à gauche, Herriot, etc., propose que l'on modère un peu nos exigences par rapport à l'Allemagne. Pour Flandin, il n'en est pas question. Il sera le gardien vigilant du paiement des réparations jusqu'à leur annulation totale au congrès de Lausanne en 1932. Mais il a toujours été, sur ce point-là, très, très vigilant et très rigoureux par rapport à l'Allemagne.
Nous avons bien compris que Flandin était un centriste et que, pour lui... Il n'envisage, parce que c'est pareil, la vie politique est très compliquée en France, hein, c'est la valse des ministères qui tombe. Pour lui, le pouvoir en tant que membre de l'Alliance démocratique ne peut s'exercer qu'avec les radicaux socialistes.
Oui.
Et alors là, il faut que vous nous parliez d'une notion un peu spécifique et sans doute propre à l'époque, ce qu'on appelle la notion de concentration.
Concentration. Le mot concentration vient automatiquement si on parle de Flandin et inversement. La concentration, c'est Flandin, et Flandin, c'est la concentration.
Alors, que faut-il comprendre
Alors,
avec cette
si vous voulez, pour Flandin, l'Alliance démocratique ne pourra jamais avoir des effectifs de députés suffisants pour gouverner seul, hein, c'est une évidence. Il faut s'allier. Avec qui s'allier? On ne peut pas s'allier avec la gauche, hein, on ne peut pas faire partie d'un cartel ou d'un Front populaire. Bon, on peut s'allier avec la droite, ça c'est fait. C'est-à-dire la droite conservatrice ou réactionnaire. Mais l'Alliance démocratique n'aime pas trop. Les conservateurs, ça va, mais les réactionnaires, elles ne les aiment pas trop. Ça sent un peu trop l'extrémisme. Alors, on peut le faire, mais c'est pas recommandé. On peut aussi s'allier avec tous les partis dans les gouvernements d'Union nationale, qui n'exclut que les socialistes. C'est Poincaré en 26, et puis c'est Doumergue et Flandin en 34. Flandin en 34, c'est un ministère d'Union nationale. Mais la situation est grave, et là, on réunit tout le monde. En revanche, dans une situation normale, c'est la concentration, c'est l'alliance avec les radicaux. Pour Flandin, tout doit réunir les gens de l'alliance et les radicaux. Même clientèle électorale, bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, assez provinciale, bourgeoisie laïque, évidemment plus laïque chez les radicaux que chez l'Alliance, c'est vrai, mais laïque quand même. Bourgeoisie libérale, peut-être un peu moins chez les radicaux, un peu plus à l'Alliance. Mais tout ça, ça rassemble. Le mot de Flandin est assez joli. On doit unir la bourgeoisie voltairienne, les radicaux, avec la bourgeoisie libérale, nous, l'Alliance. Donc c'est ça. Mais il en rêve de ça, toute sa vie, toute sa vie. Et ça ne se réalisera jamais. Alors on peut le dire simplement, et on en finira, mais c'est que c'est une alliance impossible, c'est un centrisme impossible. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui réunissent, mais il y a les clivages, remontent très très vite. Le moindre problème de laïcité crispe dans les deux camps les positions. Les radicaux retrouvent en quelque sorte des comportements plus agressifs, alors que l'Alliance, au contraire, se présente pour essayer de défendre l'enseignement libre, l'Église. Donc les conflits, les dissensions remontent très vite, et en réalité c'est un rêve que Flandin poursuit, mais qui est très difficile à atteindre.
Sur un plan personnel et privé, quel lien Flandin a avec la religion catholique?
Alors ça, c'est une question difficile. Il y a la pratique catholique. Chez les Flandins, on est enterré à l'Église, on se marie à l'Église. Mais le catholicisme, c'est quelque chose en plus tout de même, hein, qui est la pratique, etc. Alors il va à des messes, etc. Mais on a l'impression que ça l'intéresse. Bon, c'est un catholique qu'on va qualifier de conventionnel, si vous voulez. Ça s'arrête là. Alors, ça change. Le seul moment où ça évolue très nettement, c'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie, avec toutes les difficultés qu'il rencontre, la mort de son fils peut-être, hein, qui est tout de même un deuil très très cruel pour lui. Et on a l'impression qu'il y a un discours qui est en train de changer, donc à partir de la guerre et jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce n'est pas un catholique militant.
Il y a aussi, dans les années 20, les années 30, il y a la montée de blocs totalitaires. Il y a l'Italie, il y a eu la révolution russe, j'allais dire un bloc bolchevique. Il y a bien sûr l'Italie fasciste. Et puis on aura l'occasion de parler du nazisme. Vous m'avez dit que Flandin n'avait rien compris au nazisme. Mais on y reviendra dans l'émission de la semaine prochaine. Comment approche-t-il la révolution bolchevique et quelque part les menaces, entre guillemets, que le bolchevisme a fait peser sur différents pays d'Europe à travers ses militants?
Bien sûr. Le point qu'on peut souligner chez Flandin en matière politique, c'est vraiment sa aversion absolue au bolchevisme. Ça, c'est très clair. Il n'aime pas les socialistes, mais alors les communistes, c'est pas possible. Donc, il y a d'abord toute l'affaire des dettes qu'ils n'ont pas réglées. Il y a aussi tout de même le message
révolutionnaire. Donc, les dettes tsaristes, en fait.
Les dettes tsaristes, bien entendu, vous avez raison de souligner. Mais il y a aussi le fait que la révolution bolchevique appelle à la révolution mondiale, tout de même, hein, en tout cas, surtout Lénine. La création de l'Internationale, la création d'un parti communiste en France, qui, pour Flandin, est totalement inféodé à des ordres venus de Moscou. C'est-à-dire non seulement d'une centrale idéologique, mais aussi d'un pays qui a sa propre diplomatie. Il y a une confusion des gens entre idéologie et diplomatie. Pour Flandin, c'est un parti à surveiller de très près. De toute façon, quand il est ministre, enfin, quand il est à Matignon, il y a une surveillance du PC. Bon, voilà. Donc, ça, il a une détestation pour les communistes. Alors, pour les fascistes italiens, c'est un peu l'inverse. Il n'aime pas les nazis. Franchement, il n'aime pas les nazis. Il a toujours une sympathie pour le régime fasciste. Il va souvent en Italie. Il a rencontré les dignitaires fascistes, enfin pas tous, mais un certain nombre, y compris Mussolini. Il a toujours espéré voir l'Italie rester dans l'alliance avec la France, qui était celle de la guerre, hein, de 1915 à 1918. Il a toujours espéré, il a été très déçu. Il a été absolument accablé de la gestion par la SDN de l'affaire éthiopienne qui nous avait évidemment perdu l'Italie. Nous avons perdu l'alliance italienne à ce moment-là.
Est-ce que Flandin avait des amis qui n'étaient pas de son bord politique? Ou est-ce que les amitiés rejoignent l'idéologie?
Je crois que les amitiés rejoignent l'idéologie. Il a beaucoup d'amis dans le monde industriel. Vous avez, j'ai parlé de Renault, Breguet, ces gens-là, il les connaît bien. Dans le milieu politique, Boussac, le grand patron du textile, est son ami le plus proche. Non, ses amis sont essentiellement des gens de droite et surtout des gens de l'Alliance démocratique. Son ami le plus cher est Portman, qui était député médecin réputé à Bordeaux, député de la Gironde, et qui l'a suivi jusqu'à la mort. Et il est à l'Alliance démocratique. Non, il fréquente des gens de sa sensibilité politique, ça c'est certain.
Alors, autre grande figure politique qui jouera un rôle plus tard sous Vichy, c'est Laval. Alors c'est l'antagonisme total parce que tous les deux dévorés d'ambition politique.
Oui, là, il n'aime pas Laval et je crois que Laval lui rend bien. Hein. Donc je crois que c'est une rivalité de personnes, une rivalité de caractère, une rivalité d'ambition, hein, ça c'est très clair. Et les personnalités sont quand même très différentes. Hein. Vous avez tout à l'heure, à juste titre, évoqué l'espèce de caractère hautain de Flandin. Vous voyez, Laval est complètement différent dans son comportement. C'est ce côté maquignon un peu qu'à Laval, c'est pas du tout le genre de Flandin. Là, Laval ne s'habille pas à Londres. Il n'y a qu'à voir la touche qu'il peut avoir, il ne s'habille pas à Londres. Voilà.
On va, si vous le voulez bien, souffler un peu, laisser un temps Flandin de côté pour offrir une pause musicale à nos auditrices et auditeurs. Je rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes aujourd'hui avec Étienne Paquin, agrégé d'histoire, et qui a soutenu en 2016 une thèse consacrée à Pierre-Étienne Flandin, thèse qui a été édité et qui est disponible aux publications historiques de l'Est sous le titre Pierre-Étienne Flandin ou un centrisme impossible.
Non, je n'ai pas non le profil, sûr qu'on n'est pas nés tous égaux. Ma vie ne tient pas qu'à un fil, j'ai des mousquetons plein le dos. Je ne serai jamais le sujet d'une biographie et je le regrette. Je n'ai pas eu mauvaise fortune dans le passé, faut que je vive avec. Sûr que je manque d'intérêt, puisque je ne suis pas orpheline, puisque je n'ai pas été trouvée étant petite dans les épines. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Médailles leur manquent pas de bras, sont pas allés mourir à la guerre. Ça c'est pas de leur faute, y'en avait pas. Mais bon sang, j'ai rien à pleurer. Penses-tu qu'ils auraient fait un effort? Ils n'ont même pas divorcé. Je suis pas rodée contre le mauvais sort. Non, je suis pas née au bon endroit pour faire du courage mon blason. Je peux inventer, mais ça compte pas. Ça me fait pas le pied d'une cendrillon. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec mon père. C'est pas de ma faute si je fais bon train. J'ai rien pu y faire. À moi au secours Malocène, viens montrer comment tu fais pour toutes les emmerdes te reviennent. Dis tu voudrais pas. J'ai jamais été prise en otage. J'ai pas le maquis dans la peau. Et mon bateau n'a jamais fait naufrage. Du coup, je sais pas faire les radeaux. Au lieu de tout ça, c'est dans les choux que je me suis plantée hier matin. Si c'est pas triste, ça chez nous, la mode n'est vraiment pas un refrain. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Étienne Paquin, agrégé d'histoire, auteur d'une thèse de doctorat consacrée à Pierre-Étienne Flandin. Une thèse, je le rappelle, parce que notre émission vous donne un grand nombre d'informations. Bien évidemment, vous pouvez continuer à investir le parcours politique de Pierre-Étienne Flandin en vous procurant la thèse de notre invité Étienne Paquin, parue aux publications historiques de l'Est. Alors on le trouve en librairie, dans certaines librairies de Lyon, et autrement on peut aller sur le site internet même centre de recherche universitaire lorrain d'histoire ou publications historiques de l'Est, on peut le commander par correspondance de manière très, très facile. Alors revenons à Pierre-Étienne Flandin. Nous sommes au début des années 30 et l'homme, nous l'avons dit, porosité entre le métier d'avocat d'affaires un temps et l'aéropostale, l'homme est éclaboussé par des scandales.
Oui. Alors, il est complètement en dehors du scandale Stavisky. Hein. Il y a eu des enquêtes, d'ailleurs, sur de très, très nombreux parlementaires. Le scandale Stavisky touche surtout les radicaux. Il n'est pas compromis, alors, pas du tout dans ce scandale. Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y a deux affaires qui concernent l'aviation, ce qui montre bien précisément la porosité des liens que nous évoquions tout à l'heure. Il y a la liquidation des stocks en 1919-20. Il a créé une société qui a liquidé les stocks de l'aviation. Il fallait le faire avant de relancer un programme de développement. Il fallait le faire. Donc, et on a souligné ici ou là que les stocks avaient été liquidés tout de même à très bas prix et que ça avait avantagé certains de ses amis politiques ou de ses relations économiques. Bon, ça n'a jamais été très loin. Ça remonte assez régulièrement, cette affaire-là. Mais le scandale le plus grave, c'est un scandale. Enfin, le plus grave. Le plus important, c'est celui de l'Aéropostale. Il est très lié à l'Aéropostale. Il est avocat d'affaires. L'Aéropostale fait partie d'un espèce de holding avec des banques. L'Aéropostale est pour les Français le chevron de notre histoire aérienne. Hein. C'est la Mermoz, la traversée du Sahara, le Brésil, le Chili, etc. C'est donc une société emblématique, faillite, très mal gérée. La famille Bouillou-Lafont qui sert le holding, qui dirige le holding a fait pas mal de gaffes. Et ça provoque évidemment une émotion nationale et du même coup assez rapidement un scandale. Parce que la question qui... Enfin, la réalité qui apparaît assez rapidement, c'est qu'il y a eu des fonds donnés par l'État qui ont été détournés de leur destination, qui était l'Aéropostale et pas forcément les filiales de l'Aéropostale en Amérique latine. Je ne rentre pas dans les détails, il y a eu des enquêtes. La seule chose qui apparaît évidente, c'est que Flandin était avocat conseil de cette société importante et qu'il est soupçonné, dans le meilleur des cas, de ne rien avoir vu, dans le pire des cas, d'avoir vu les choses et de s'être tu. Et le Temps, grand journal, très neutre, hein, et d'une haute tenue, qui est flandiniste par ailleurs et qui est très favorable à l'Alliance, dit à Flandin dans un article, écoutez, ne mêlez pas la politique et puis les affaires économiques, il faut être très prudent. Voilà, le Temps le dit. Mais c'est vrai que ça a déchaîné, alors nous en revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, mais des débats à l'Assemblée extrêmement houleux. Flandin a évité le pire, simplement. Il faut dire aussi qu'il a des moyens contre les députés socialistes qui l'attaquent, Blum et d'autres.
C'est le fils de Léon Blum.
Voilà, l'affaire aussi de Léon Blum avec son emploi chez Peugeot, etc. Et puis Blum a défendu des sociétés...
Les Galeries Lafayette.
Les Galeries Lafayette, oui. Voilà. Donc, il les tient un peu, là. Il ne se prive pas de lire dans les couloirs de l'Assemblée. Si jamais il m'ennuie, je vais leur renvoyer la monnaie de leur pièce. Alors, je termine en disant qu'il a tiré un profit politique de tout ça. C'est-à-dire qu'à droite, il est apparu comme quelqu'un qui savait parler à la gauche et qui savait la mater quand elle sortait un peu de ses travées. Voilà, donc il a tiré un profit politique.
Alors il y a des tensions politiques très fortes, une France aussi où il y a des tensions sociales liées aux conséquences de la crise de 29, hein, qui a traversé l'Atlantique et qui touche de plein fouet tous les pays européens, sans d'ailleurs éviter la France. Et puis on est dans une époque où il y a une grande agitation des ligues d'extrême droite, les Camelots du Roi. C'est aussi l'époque où monte un peu l'idée d'un front populaire pour les élections de 36. Mais juste avant, il y a le 6 février 1934, rappelons peut-être, Étienne Paquin, cette date qui a menacé et ébranlé la République et l'Assemblée nationale. On veut fesser les députés.
Ouais. Fesser les députés, prendre le palais Bourbon d'assaut. Et alors, cette manifestation est une manifestation qui a été effectivement, qui a été perçue en tout cas à gauche, hein, ça c'est certain, et c'est sans doute ce qui va mettre en route le protocole de mise en place du Front populaire, hein, ça c'est certain. La gauche pense qu'il y a un complot contre la République. C'est difficile de l'affirmer, mais il est vrai tout de même que la journée du 6 février a montré une agressivité des ligues qui était tout de même assez inquiétante.
C'est une émeute.
Ah, c'est une émeute. Et alors, tous les participants ne sont pas aussi agressifs. De La Roque, par exemple, a arrêté ses troupes assez rapidement. De La Roque était d'une droite assez vigoureuse, mais était républicain, sincèrement. En revanche, l'Action française et d'autres ligues sont beaucoup plus agressives, et l'objectif, c'est de renverser le régime. Ça, c'est, enfin, en partie, en tout cas. Hein. Donc, voilà. Alors, Flandin a vécu ça d'assez loin. Il a simplement eu à gérer les retombées du 6 février, puisque quand il est à Matignon, il a à gérer l'anniversaire du 6 février 34 en février 35. Et là, il a pas mal d'ennuis, parce qu'il ne tient pas du tout à voir se répéter des émeutes, alors que les ligues demandent à ce qu'on fasse des cérémonies pour honorer la mort d'un certain nombre de manifestants. Hein. Donc il doit gérer ça avec beaucoup de prudence, et ça lui vaut à l'extrême droite tout de même un certain nombre de, de haine. Hein. L'extrême droite a juré qu'il était, a jugé qu'il n'avait pas eu un comportement suffisamment digne par rapport à tous ces morts du 6 février.
Donc pas de collusion idéologique entre Flandin
Pas de collusion au moment du 6 février et après Flandin reste tout de même assez droit dans ses bottes. Hein. Mais c'est vrai qu'il est tout de même victime d'une campagne très agressive dans certaines feuilles d'extrême droite. L'Action française, par exemple.
Peut-on dire que Pierre-Étienne Flandin est un homme d'ordre ?
Oui, c'est un homme d'ordre, oui, c'est certain. Il a, par exemple, puisque nous parlions de tout ça, il a prêté une attention assez grande, lorsqu'il est à Matignon, son ministre de l'Intérieur prête une attention assez grande à ce qu'on appelle le dorgérisme, c'est-à-dire un mouvement rural dirigé par un nommé Dorgère, qui est assez connu, qu'on connaît bien, que les historiens connaissent bien. C'est, dans ces campagnes, il y a de l'agitation, on est hostile à la politique agricole des gouvernements, en particulier celui de Flandin, hein, et ça mobilise beaucoup la paysannerie qui est victime de la crise et qui a l'impression de ne pas s'en sortir. Et ce mouvement dorgériste et anti-républicain, c'est pas seulement une contestation économique, c'est aussi une contestation du régime, anti-parlementarisme, un brin d'antisémitisme, etc. etc. Flandin veille au grain, là, hein, et il y a pas mal de feuilles dans les dossiers de la BNF là-dessus.
Alors on a déjà énormément déroulé le parcours de Pierre-Étienne Flandin, qui va être appelé finalement à devenir ce que l'on appelle président du Conseil. Alors aujourd'hui, on dirait premier ministre, mais sous la troisième, on dit président du Conseil. Alors, président du Conseil à partir de début novembre 1934 jusqu'au 1er juin 1935. Je pense que nous n'aurons pas assez de temps pour parler de cette installation à Matignon avec tout ce que cela comporte, parce que là aussi, Flandin va laisser une empreinte finalement à Matignon, dans l'aspect pratique de la politique, de gérer d'autres ministres, et également dans la transformation, j'allais dire, du décor, de l'environnement, qui était, je crois, une ancienne ambassade d'Autriche,
tout à fait.
Donc, on ne peut qu'encourager nos auditrices et auditeurs à nous rejoindre samedi prochain, toujours à 11h,
sur
Radion, pour évoquer donc Pierre-Étienne Flandin, président du Conseil, parler du Front populaire, et puis aussi des tensions dans un monde en bloc totalitaire et des États qui essaient de rester attachés à la démocratie. Et puis, bien sûr, nous parlerons de l'épisode de quelques semaines à Vichy et de la fin de Flandin, grâce à vous, Étienne Paquin, que je remercie en tout cas pour cette première partie d'émission. Je rappelle et confie à nos auditrices et auditeurs le titre de votre thèse, Pierre-Étienne Flandin ou un centrisme impossible, thèse que vous avez soutenue en 2016 sous la direction d'Olivier Dard et qui est disponible donc aux publications historiques de l'Est. Voilà. Il ne reste qu'à vous remercier beaucoup, Étienne Paquin. On se retrouve samedi prochain.
C'est moi qui vous remercie. Je remercie vos auditeurs de leur attention, bien entendu. Merci beaucoup.
Merci à vous, Étienne Paquin. Merci à nos auditrices et auditeurs que nous retrouvons donc samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Et bien évidemment, si vous avez manqué le début de cette première émission consacrée à Pierre-Étienne Flandin, vous la retrouvez magiquement par quelques clics en vous rendant sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.